Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Et voilà, là c'était Boris Vian qui chantait Le Déserteur. Vendredi dernier, nous avions écouté John Baez qui chantait Le Déserteur. Donc nous sommes dans l'action Audradec, action 115 Audradec, tout le mois d'avril. Et donc il y a 5 vendredis dans ce mois d'avril et nous vous proposons chaque vendredi, en direct à l'antenne de 19h30 à 20h, eh bien, de parler de cette fichue guerre, celle-là et d'autres d'ailleurs. D'ailleurs on va commencer par un texte de Giono. Giono, c'était en 1934. Où il avait publié un texte que je vais lire et notamment qu'il avait qui est reparu chez Gallimard en 37, mais son texte date de 34. Il présentait ce texte de cette façon. Je trouve que personne ne respecte plus l'homme. De tous les côtés, on ne parle plus que de dicter, d'obliger, de forcer, de faire servir. On dit encore cette vieille dégoûtante baliverne, la génération présente doit se sacrifier pour la génération future. On le dit même de notre côté, ce qui est grave. Si encore nous savions ce que c'est vrai, mais par expérience, nous savons que ce n'est pas vrai. La génération future a toujours des goûts, des besoins, des désirs, des buts imprévisibles pour la génération présente. On se moque des 10 heures de bonne aventure. Il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier, des bâtisseurs d'avenir. Surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. je refuse d'obéir. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915, je suis partie, sans croire à la patrie. J'ai eu tort. Non pas de ne pas croire, de partir. Ce que je dis n'engage que moi. Il n'y a pas un seul moment de ma vie où je n'ai pensé à lutter contre la guerre depuis 1919. J'aurais dû lutter contre elle pendant le temps où elle me tenait, mais à ce moment-là, j'étais un jeune homme affolé par les poètes de l'État bourgeois. Mon cœur, qui avait été maçonné et construit par mon père, le cordonnier à l'âme simple et pure, mon cœur n'acceptait pas la guerre, et je marchais avec un fusil fermé dans le bled de l'attaque. Je le regrette maintenant. Ce fusil, il aurait été bon de le garder fin prêt et astiqué, et la culasse coulant bien, et les cartouches bien graissées, le garder avec moi. Et, comme on m'avait dit, m'en servir contre mes ennemis. Le cœur maçonné par mon père m'aurait fait connaître mes ennemis. Ce qui me dégoûte dans la guerre, c'est son imbécilité. J'aime la vie. Je n'aime que la vie. C'est beaucoup, mais je comprends qu'on la sacrifie à une cause juste et belle. J'ai soigné des maladies contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon don total. À la guerre, j'ai peur. J'ai toujours peur. Je tremble. Je fais dans ma culotte. Parce que c'est bête. Parce que c'est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du camarade en face dans la ligne de tirailleurs qui s'avance vers moi. Inutile pour le fantassin, pour le cavalier, pour l'artilleur, pour l'aviateur, pour le soldat, le sergent, le lieutenant, le capitaine, le commandant. Attention, j'allais dire le colonel. Oui, peut-être le colonel, mais arrêtons-nous. Hein. Inutile pour ceux qui sont tous sous la meule, pour la farine humaine. Utile pour qui alors? Depuis 1919, j'ai lutté patiemment, pied à pied, avec tout le monde. Avec mes amis, avec mes ennemis, avec des amis de classe, mais faibles, avec des ennemis de classe et forts. Et à ce moment-là, je n'étais pas libre, j'étais employée de banque, c'est tout dire. On a essayé de me faire perdre ma place. Déjà, à ce moment-là, on disait « c'est un communiste ». C'est-à-dire, on a le droit de le priver de son gagne-pain et de le tuer, lui et tout ce qu'il supporte sur ses épaules, sa mère, sa femme, sa fille. Je n'étais pas communiste, je ne le suis pas maintenant. J'ai refusé de faire partie des sociétés d'anciens combattants, car elles étaient à cette époque créées seulement pour des buts mutualistes et non pour affirmer cette qualité d'ancien combattant et de ne jamais plus nouveau combattant. On a fondé l'ARAC, l'Association Républicaine des Anciens Combattants. Mais j'étais dans un pays perdu. Je ne connaissais pas l'action de ceux qui pensaient comme moi. Alors, j'ai mené la lutte seule. Dans ma famille, c'est souvent qu'il faut commencer et c'est le plus difficile. D'habitude, c'est par là qu'on est vaincu. Je n'ai pas gagné, mais je suis resté entier. Parmi mes amis, deux ou trois m'ont suivi et me suivent encore. Puis j'ai commencé à écrire et tout de suite, j'ai écrit pour la vie. J'ai écrit la vie. J'ai voulu saouler tout le monde de vie. J'aurais voulu pouvoir faire bouillonner la vie comme un torrent et la faire se ruer sur tous les hommes secs et désespérés, les frapper avec des vagues de vie froides et vertes. Leur faire monter le sang à fleur d'eau, de peau, les assommer de fraîcheur, de santé, de joie, les déraciner de l'assise de leurs pieds à souliers et les emporter dans le torrent. Celui qui est emporté dans les ruissellements et perdu de la vie ne peut plus comprendre la guerre, ni l'injustice sociale. C'est l'injustice sociale qui m'a fait me désespérer sur un chemin de vanité pendant 4 ans et plus. Je continue la lecture du texte de Giono. Celui qui est contre la guerre est par ce seul fait dans l'illégalité. L'État capitaliste considère la vie humaine comme la matière, véritablement première, de la production du capital. Il conserve cette matière tant qu'il est utile pour lui de la conserver. Il l'entretient, car elle est une matière, et elle a besoin d'entretien, et aussi pour la rendre plus malléable. Il accepte qu'elle vive. Il a des maternités où on accouche les femmes avec autant de soins qu'on peut. Il a des écoles où les inspecteurs primaires viennent caresser les joues des enfants. Il a des stades où on fait faire du sport à 22 hommes et où l'on donne le spectacle à 40 000. Spectacle déjà de bataille, de lutte, de camp. Il a des casernes. Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre et tuer l'État capitaliste. Je préfère m'occuper de mon propre bonheur. Je ne veux pas me sacrifier. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. Je refuse de me sacrifier pour qui que ce soit. Je ne veux me sacrifier qu'à mon bonheur et au bonheur des autres. Je refuse les conseils des gouvernants de l'État capitaliste, des professeurs de l'État capitaliste, des poètes, des philosophes de l'État capitaliste. Ne vous dérangez pas, je sais où c'est. Mon père et ma mère m'ont fait des bras, des jambes et une tête. C'est pour m'en servir. Et je vais m'en servir cette fois. On ne peut plus se promener sur le champ de bataille avec son fusil pareil à un bâton. Le dédain, l'acceptation du martyr, la non-résistance, rien de tout ça ne peut être maintenant efficace. Croyez-vous que l'État capitaliste va s'arracher le cœur de bon gré ? La guerre est le cœur de l'État capitaliste. La guerre irrigue de sang frais toutes les industries de l'État capitaliste. La guerre fait monter aux joues de l'État capitaliste les belles couleurs et le duvet de pêche. Vous croyez que de son bon gré, l'État capitaliste va s'arracher le cœur ? Parce que vous êtes touchant, bel imbécile, marchant dans la ligne de tirailleurs avec votre fusil pareil à un bâton ? Il n'y a qu'un seul remède, notre force. Il n'y a qu'un seul moyen de l'utiliser, la révolte. Texte de Giono, écrit en 1934.
Une guerre annoncée. Une guerre annoncée. L'extrême brutalité de la conception russe du pouvoir ne fait pas débat. Mais les Ukrainiens peuvent en vouloir aux jeux troubles de leurs dirigeants, qui ont servi les intérêts étrangers, souvent en lien avec une intense corruption. Petite compilation de tous les avis des stratèges et diplomates des États-Unis qui ont alerté sur l'extrême danger de guerre de ce jeu pervers. La chose la plus frappante à propos de la guerre en Ukraine est le nombre de penseurs stratégiques de premier plan qui ont averti pendant des années qu'elle allait arriver si nous continuions sur la même voie. Personne ne les a écoutés et nous y sommes. Petite compilation de ces avertissements. Petite compilation de Kissinger à Mersheimer.
Quelle date ?
Je n'ai pas de date, mais c'est dans les citations.
Ah voilà.
Le premier est George Kennan, sans doute le plus grand stratège de politique étrangère des États-Unis. L'architecte de la stratégie américaine de la guerre froide. Dès 1998, il a averti que l'expansion de l'OTAN était une erreur tragique, qui devrait finalement provoquer une mauvaise réaction de la Russie. Puis, il y a eu Kissinger, en 2014. Il a averti que, pour la Russie, l'Ukraine ne peut jamais être un simple pays étranger. Et que l'Occident a donc besoin d'une politique visant à la réconciliation. Il était également catégorique sur le fait que l'Ukraine ne devrait pas rejoindre l'OTAN. John Mearsheimer, probablement le principal érudit géopolitique aux États-Unis aujourd'hui. En 2015, l'Occident mène l'Ukraine sur la voie de l'onagre et le résultat final est que l'Ukraine va faire naufrage. Ce que nous faisons, c'est en fait encourager ce résultat. Jack F. Matlock Jr., ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991, a averti en 1997 que l'expansion de l'OTAN était la bévue stratégique la plus profonde, encourageant une chaîne d'événements qui pourrait produire la menace la plus grave pour la sécurité depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Le secrétaire à la défense de Clinton, William Perry, explique dans ses mémoires que pour lui, l'élargissement de l'OTAN est la cause de la rupture des relations avec la Russie et qu'en 1996, il s'y opposait tellement que, sous la force de ma conviction, j'ai envisagé de démissionner. Noam Chomsky, en 2015, affirmait que l'idée que l'Ukraine puisse rejoindre une alliance militaire occidentale serait tout à fait inacceptable pour tout dirigeant russe. Et que le désir de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN ne protège pas l'Ukraine, mais menace l'Ukraine d'une guerre majeure. Stephen Cohen, un célèbre chercheur en études russes, a averti en 2014 que si nous déplaçons les forces de l'OTAN vers les frontières de la Russie, cela va évidemment militariser la situation et la Russie ne reculera pas. C'est existentiel. Le célèbre journaliste russo-américain Vladimir Posner, en 2018, a dit que l'expansion de l'OTAN en Ukraine était inacceptable pour les Russes, qu'il devait y avoir un compromis où l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN. Plus récemment, juste avant le début de la guerre, le célèbre économiste Jeffrey Sachs a écrit une chronique dans le FT avertissant que l'élargissement de l'OTAN est complètement mal avisé et risqué. Les vrais amis de l'Ukraine et de la paix mondiale devraient appeler à un compromis entre les États-Unis et l'OTAN avec la Russie. Les voix des hauts responsables de l'ONU sont également importantes, car de nombreux apologistes de l'OTAN semblent avoir oublié leur existence. Bill Burns, directeur de la CIA en 2008. L'entrée ukrainienne dans l'OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges pour la Russie. Et je n'ai pas encore trouvé personne qui considère l'Ukraine dans l'OTAN comme autre chose qu'un défi direct pour les intérêts russes. Malcolm Fraser, 22e Premier ministre australien, a averti en 2014 que le mouvement vers l'Est par l'OTAN est provocateur, imprudent et un signal très clair à la Russie. Il a ajouté que cela conduisait à un problème difficile et extraordinairement dangereux. Paul Keating, ancien Premier ministre australien en 1997. L'élargissement de l'OTAN est une erreur qui peut se classer au final avec les erreurs de calcul stratégiques qui ont empêché l'Allemagne de prendre toute sa place dans le système international au début du XXe siècle. L'ancien secrétaire américain à la défense Bob Gates, dans ses mémoires de 2015, il dit « Agir si vite pour étendre l'OTAN était une erreur. Essayer d'amener la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN était vraiment exagéré et une provocation particulièrement monumentale. » Sir Roderick Lyne, ancien ambassadeur britannique en Russie, a averti il y a un an que pousser l'Ukraine dans l'OTAN est stupide à tous les niveaux. Et il ajoute « Si vous voulez déclencher une guerre avec la Russie, c'est la meilleure façon de le faire. »
De tout le latin qu'on m'a fait faire, je n'ai gardé qu'un minimum, c'est que 6 siècles avant notre ère, un super stratège en péplum, dans un long traité militaire, dont j'ai fait mon vademécum, écrivit cette phrase austère, mais vraiment digne d'un grand homme. Tu veux la paix, prépare la guerre, civis pacem, parabellum, civis pacem, parabellum. Que la formule est élégante, C'est grand, c'est triste, mais c'est beau. Moi j'en ai fait une variante. Si l'is passem par à vélo part à l'aventure. Loin des pare-chocs, loin des autos, loin des parkings que l'on sature, loin des parcs-mètres et du métro, par au hasard dans la nature, loin de l'angoisse des cités. Et tu verras, je te l'assure, que partir c'est ressusciter. Que partir c'est ressusciter. À la TV, un journaliste interviewait avec égard un général, un spécialiste, qui dans sa tenue léopard déclarait: soyons réalistes et profondons de part en part la clique anti-militariste, les objecteurs et les sanars, civis passem parachutiste, conclut ce général bizarre, conclut ce général bizarre. On sait hélas qu'avec sa fronde, David n'abattrait plus Goliath, mais l'orage atomique gronde, alors par avant qu'il n'éclate, par de Paris, par à Tonnerre, des passes au Cerf et à Vallon, parcours ton pays et la terre, à pied à la nage en ballon, ce n'est pas partout paradisiaque, mon fils, mais retiens la leçon, méfie-toi des paranoïaques, surtout s'ils portent des galons, surtout s'ils portent des galons.
La géopolitique pour les nuls. Perceval Gaillard. Depuis l'entrée des troupes russes dans la partie russophone de l'Ukraine, j'entends un nombre incroyable d'âneries débitées à la seconde. Visiblement, les spécialistes en virologie se sont recyclés en spécialistes de géopolitique en un éclair de seconde. Début de la Troisième Guerre mondiale, délire mégalo de Poutine, violation inédite du droit international. Alors tout d'abord, un rappel du cadre général. Les États-Unis représentent 36% des dépenses militaires mondiales. 36%. Quand la Russie en représente 3,4, c'est-à-dire moins que la France. Les États-Unis ont passé 91% du temps de leur histoire en guerre, sans que jamais leur territoire soit menacé, sauf pour une guerre civile. Il y a 70 000 soldats américains sur le sol européen. Combien de soldats russes sur le continent américain ? S'il y avait 70 000 soldats russes aux portes des États-Unis et que les Russes envahissent la moitié du globe, on pourrait parler de danger pour la paix mondiale. En attendant, de quoi parle-t-on ? Relevons d'abord l'ironie à voir des pays qui élèvent aujourd'hui le respect du droit international au rang de vertu cardinale, quand eux-mêmes le foulent aux pieds allègrement en fonction de leurs intérêts. Ironie ainsi de voir les États-Unis pousser des cris d'offrai alors qu'ils ont envahi l'Irak au mépris du droit international. Ironie de voir la France, qui a plongé la Libye dans le chaos au mépris du droit international et occupe illégalement Mayotte, venir expliquer que la Russie menace l'existence même de l'ONU. Ironie les résolutions de l'ONU qui sont bafouées au quotidien par Israël et les États-Unis, ni la France qui ne crie au scandale alors que le génocide palestinien continue. Donc soyons sérieux 5 minutes, c'est à quoi nous assistons et la suite logique du processus entamé en 2004 par la révolution orange. Il s'agit d'un processus de partition d'un pays né dans la tourmente de la dislocation de l'URSS qui ne pouvait pas tenir longtemps lorsque l'on connaît à minima l'histoire de la région. Les Ukrainiens de l'Ouest sont européens et veulent intégrer l'OTAN. Les Ukrainiens de l'Est sont russes et veulent intégrer la Fédération de Russie. Sans le mandat de Trump, qui pour des raisons évidentes de politique intérieure ne pouvait ni traiter avec Moscou, ni lui céder le moindre pouce sur la question aurait été réglée depuis longtemps. Et on remarque d'ailleurs que ça n'a pas traîné avec Biden. En effet, il y a une entente évidente entre les deux pays. Les Russes ont compris que l'Ukraine allait adhérer à l'OTAN et veulent donc constituer un glacis à leurs frontières. Les Américains veulent absolument intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais ne sont pas en mesure de l'imposer dans les frontières actuelles de l'Ukraine. Les deux ne veulent pas déclencher un conflit généralisé sur cette question. Du coup, qu'a fait et qu'a dit Biden ? Il a créé les conditions de l'invasion en amassant des troupes dans des pays proches de la Russie et en préparant le monde entier à une attaque russe. Il a ensuite dit qu'il ne bougeait pas en cas d'invasion russe dans l'est de l'Ukraine. On ne peut mieux faire et dire. Poutine a bien compris le message et s'est exécuté dans le cadre strict que lui ont laissé les Américains. Les Américains auront leur élargissement de l'OTAN et la Russie aura son glacis frontalier. Pour le reste, le droit international continuera à être allègrement bafoué par les Occidentaux sans que personne ne verse une larme et les États-Unis continueront à dépenser 10 fois plus que les Russes en armement.
War Commentary for Anarchism. C'est un journal antimilitariste et libertaire publié légalement à Londres entre 1939 et 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc. On peut y trouver ce petit texte de Marie-Louise Bernery. L'armée te veut ? Sais-tu ce que tu devras faire ? T'apprendront à tuer tes frères, comme on leur a appris à te tuer. L'armée te veut ? Sais-tu ce que tu devras faire ? Juste tuer, pour sauver ton pays, d'autres hommes qui sont des travailleurs comme toi ? Ton pays ? Qui dit que tu as un pays ? Tu vis dans l'appartement d'un autre homme. Tu n'as même pas de jardin. Alors, pourquoi devrais-tu tuer pour ça ? Tu n'as pas de cabane, pas de maison, pas de fleurs, pas de jardin, pas vrai ? Les propriétaires terriens ont mis la main sur tout le pays. Laisse-les se battre, pas toi.
Le plus gros bobard de la fin du XXe siècle, par Serge Halimi et Pierre Rimbert. Il y a 20 ans, le 24 mars 1999, 13 États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, c'est l'OTAN, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, bombardaient la République fédérale de Yougoslavie. Cette guerre dura 78 jours et se nourrit de bobards médiatiques destinés à aligner l'opinion des populations occidentales sur celle des états-majors des armées. Les Serbes commettent un génocide, jouent au football avec des têtes coupées, dépècent des cadavres, arrachent les fœtus des femmes enceintes tuées et les font griller, prétendait le ministre de la Défense allemand, le social-démocrate Rudolf Scharping, dont les propos furent repris par les médias. Ils ont tué de 100 000 à 500 000 personnes. Ça, c'était le 20 avril 1999 sur TF1. Incinérer leurs victimes dans des fourneaux du genre de ceux utilisés à Auschwitz, The Daily Mirror, le 7 juillet. Une à une, ces fausses informations seront taillées en pièces, mais après la fin du conflit, notamment par l'enquête du journaliste américain Daniel Pearl, The Wall Street Journal, 31 décembre 1999. Tout se dégonflera, l'une des plus retentissantes manipulations de la fin du XXe siècle, le plan Potkova, fer à cheval, un document censé prouver que les Serbes avaient programmé l'épuration ethnique du Kosovo. Sa diffusion par l'Allemagne en avril 1999 servit de prétexte à l'intensification des bombardements. Loin d'être des internautes paranoïaques, les principaux désinformateurs furent les gouvernements occidentaux, l'OTAN, ainsi que les organes de presse les plus respectés. Comme par exemple, c'est dit par Serge Halimi dans un livre qui parle de ces médias et des guerres justes. Parmi eux, donc, Le Monde, un quotidien dont les prises de position éditoriales servent alors de référence au reste de la galaxie médiatique française. Sa rédaction, dirigée par Edoui Plenel, admet avoir fait le choix de l'intervention. En première page de l'édition du 8 avril 1999, un article de Daniel Vernet annonce ce plan fer à cheval qui programmait la déportation des Kosovars. Le journaliste reprend les informations dévoilées la veille par le ministre des Affaires étrangères allemand, l'écologiste Joschka Fischer. Ce plan du gouvernement de Belgrade, détaillant la politique de nettoyage ethnique appliquée au Kosovo, porte le nom de code de plan fer à cheval, sans doute pour symboliser la prise en tenaille des populations albanaises, écrit Vernet, pour qui la chose paraît faire peu de doute. Deux jours plus tard, le quotidien récidive sous toute la largeur de sa une. Comment Slobodan Milosevic a préparé l'épuration ethnique? Le plan serbe, Potkova, programme est l'exode forcé des Kosovars dès octobre 1998. Il a continué d'être appliqué pendant les négociations de Rambouillet. Le journal Le Monde évoque un document d'origine militaire serbe et reprend à nouveau les allégations des officiels allemands au point de reproduire l'intégralité d'une note de synthèse, qu'on appellerait aujourd'hui des éléments de langage, distribués aux journalistes par l'inspecteur général de l'armée allemande. Berlin entend alors justifier auprès d'une opinion plutôt pacifiste la première guerre menée par la Bundeswehr depuis 1945, de surcroît contre un pays occupé 50 ans plus tôt par la Wehrmacht. Or ce plan est faux. Il n'émane pas des autorités serbes, mais a été fabriqué à partir d'éléments compilés par les services secrets bulgares, puis transmis aux Allemands, qui alors font du zèle pour rentrer dans l'OTAN. Le poteau rose sera révélé le 10 janvier 2000 par l'hebdomadaire Der Spiegel et confirmé 12 ans plus tard par l'ancienne ministre des Affaires étrangères bulgare. A posteriori, le document aurait dû inspirer d'autant plus de méfiance que fer à cheval se dit Potkovitska en serbe et non Potkova. Ainsi que le remarquera dès le 15 avril 1999 un député allemand devant le Bundestag. En mars 2000, le général de brigade allemand Heinz Locke exprimait dans un livre ses doutes sur l'existence d'un tel document. Son enquête oblige M. Scharping à admettre qu'il ne dispose pas d'une copie du plan original. Au même moment, le porte-parole du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qualifie les éléments du prétendu plan de matériel peu probant. Et la procureure Carla Del Ponte n'y fera même pas référence dans l'acte d'accusation de Milosevic en 1999 puis en 2001. La guerre, avait expliqué Plenel peu après le début des bombardements, c'est le défi le plus fou pour le journalisme. C'est là qu'il prouve ou non sa crédibilité, sa fiabilité. L'investigateur n'est jamais revenu sur ce grand écart avec l'amour des petits faits vrais qu'il proclame dans son livre pamphlet en faveur de l'intervention de l'OTAN. Le Monde évoquera à nouveau le faux, mais comme il l'avait toujours considéré avec prudence, fer à cheval reste un document fort controversé dont la validité n'a jamais été prouvée. Ça, il le dit en février 2002. Spécialistes des Balkans, les journalistes Jean-Arnaud Derens et Laurent Gesselin qualifient pour leur part le plan Potkova d'archétype des fake news diffusés par les armées occidentales, repris dans tous les grands journaux européens. La célébration d'un anniversaire n'aurait pas justifié à elle seule qu'on revienne sur cette affaire, mais certaines de ses conséquences pèsent encore sur la vie internationale. Pour ce qui fut sa première guerre depuis sa naissance en 1949, l'OTAN choisit d'attaquer un État qui n'avait menacé aucun de ses membres. Elle prétexta un motif humanitaire et agit sans mandat des Nations Unies. Un tel précédent servit les États-Unis en 2003 au moment de leur invasion de l'Irak, là encore aidé par une campagne de désinformation massive. Quelques années plus tard, la proclamation par le Kosovo de son indépendance en février 2008 mettrait à mal le principe de l'intangibilité des frontières. Et la Russie se fonderait sur cette indépendance lorsqu'en août 2008, elle reconnaîtrait celle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, deux territoires qui s'étaient détachés de la Géorgie, puis en mars 2014, quand elle annexe la Crimée. La guerre du Kosovo ayant été conduite par une majorité de gouvernements de gauche et appuyée par la plupart des partis conservateurs, nul n'avait intérêt à ce qu'on revienne sur les falsifications officielles. Et on comprend sans peine que les journalistes les plus obsédés par la question des fake news préfèrent eux aussi regarder ailleurs. Et alors, je continue avec un petit texte où on a de la...
Une pause. Oui, j'ai un petit morceau.
Ah, alors, vas-y.
Là, je le traduis parce que c'est en russe.
Ah,
le morceau s'appelle...
Ah, parce que tu traduis le russe. Non, mais oui, nous avons un technicien. Bravo à Canal Sud. Bravo.
Oui, grâce à la magie informatique, j'arrive à traduire.
Alors,
morceau s'appelle « Les Russes veulent-ils la guerre ?» C'est interprété par les chœurs de l'armée rouge. Rien que ça. On écoute.
Et ça sera un bon final, non? Un final de cette action 115. On vous donne rendez-vous tous les vendredis, donc vendredi prochain, 19h30, 20h sur l'antenne pour des textes contre la guerre. Mais à partir de 18h30, vous pouvez venir dans les locaux de la radio 40 rue Alfred Duméril. plein de textes à lire en très très gros sur les murs. Et puis on fera une auberge espagnole, vous pouvez amener de quoi grignoter et on pourra discuter des enjeux de cette guerre, mais de toutes les guerres aussi, puisque vous l'avez compris, nos textes et tout ce qu'on dit, c'est contre la guerre et ceux qui la font et ceux qui la veulent, et pour tous ceux qui hélas vont y mourir.
Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех, кто воевал, кто вас на небе обнимал, мы этой парой.